Bonjour à tous et à chacun. Juste avant de commencer, je pense que vous serez intéressé par quelques nouvelles de Lunel, enfin, j'espère. Nous avons toujours, nous collaborons toujours avec une association qui reçoit des SDF. Trois soirées par semaine pour leur apporter un repas chaud. Donc ça se passe dans nos locaux, ça se passe l'hiver. Voilà, ça a repris. Ensuite, cette année 2019 sera pour nous, en principe, une année de changement important, puisque ce sera la dernière année où Pablo et Patricia seront au milieu de nous. Je dis en principe parce que un petit événement est survenu dans le couple, peut-être certains le savent, Patricia attend un enfant, et donc nous aurons quelques mois un petit franco-brésilien dans nos rangs à Lunel. Voilà, ils sont très très heureux de cela. Voilà. Mais cette année 2019 va être une année de changement pour nous à Lunel. Voilà, nous avons aussi, il faut le dire aussi, été très touchés par le départ de Nadie. L'église de Lunel a prié pour notre sœur, pour notre frère. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Alors, ce matin, je voudrais vous entretenir d'un sujet. Je donne le titre peut-être pour celui qui fait l'enregistrement. Le titre, ce serait « Le visible et l'invisible » ou « Deux prières pour la foi ». Je ne m'approche pas trop parce que je crois que ça fait un peu de l'arsène. Je parle plus fort. Ah. Voilà. Le visible et l'invisible, ou deux prières pour la foi. Que le Seigneur ouvre nos cœurs et qu'il me soutienne aussi durant cette prédication. Je vous invite tout d'abord à lire trois textes. Le premier, nous le trouvons dans le livre des Rois, dans Deux Rois, au chapitre 6. Nous lirons les versets 8 à 17. Deux Rois 6, les versets 8 à 17. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit : « Mon camp sera dans tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël : « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit : « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit : « Personne, ô roi mon seigneur, mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit : « Allez, et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire : « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu : « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? » Il répondit : « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur pour qu'il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Un second texte dans le Nouveau Testament, l'Évangile de Marc, chapitre 9. Marc nous rapporte cette histoire de ce démoniaque que les disciples n'ont pas pu délivrer. C'est un jeune homme dont le père est complètement désespéré. Voici ce qu'il dit à Jésus au verset 22 de Marc 9. « Si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Et enfin, un troisième texte bien connu aussi, c'est dans le livre des Hébreux, l'Épître aux Hébreux, les trois premiers versets du chapitre 11. « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Excusez-moi. Je commencerai ma prédication par une question toute simple. Lorsque vous étiez enfant, est-ce que vous aviez peur du noir ou de l'obscurité? Moi, je n'ai pas honte de le dire, j'avais peur. J'avais peur du noir, j'avais peur de l'obscurité. Et je me souviens de ces trouilles enfantines qui me paralysaient réellement dans le noir. De véritables trouilles. Je m'en souviens encore, vous vous rendez compte? Par exemple, lorsque l'hiver est venu, le jour tombe beaucoup plus rapidement et il nous fallait rentrer depuis l'école jusqu'à notre maison. Et pour cela, il fallait traverser une allée sombre de platanes où il n'y avait pas d'éclairage, il n'y avait rien à cette époque-là. Je sortais de l'école, les grands panneaux des fenêtres éclairaient un petit peu la cour, et après je rentrais dans ce noir. Mais je m'enfonçais dans ce noir, vraiment l'angoisse au cœur, dans ce trou noir de cette allée de platane. Et pour tenter de vaincre la peur, j'avais mis au point une technique très élaborée, je croyais. Premièrement, pour éviter tout danger trop près, je marchais bien au milieu de l'allée, bien au milieu. Et je marchais pour éviter les éventuels fantômes ou autres trucs maléfiques qui pourraient sortir de derrière les arbres. Et deuxièmement, et là c'était le point important, je gardais les yeux fixés. Au bout, là-bas, il y avait la route nationale, avec une petite loupiote qui éclairait. On était très très économe des lumières à l'époque. Mais cette loupiote, cette lumière, si faible fut-elle, était ma bouée de sauvetage. Et toute antenne dehors, je marchais, raidi à la fois, par l'attention et par la peur, n'ayant qu'un seul but, atteindre cet espace enfin éclairé. Et alors, si par hasard, surtout quand il y avait du mistral, il y avait un bruit qui sortait là, de derrière les arbres, alors vous savez, toutes mes, mes techniques très très élaborées, ça passait à la poubelle et j'en adoptais une autre qui était très simple, la fuite éperdue vers la lumière, la petite loupiote qui était là-bas au bout. Je prenais mes jambes à mon cou et je filais, je faisais ma course du soir. Les trouilles enfantines. Et c'est vrai que l'obscurité engendre la crainte et la peur, surtout dans l'esprit des enfants qui, en général, ont l'imagination fertile. Il faut le reconnaître. Le fait de ne pas voir ou de voir mal nous insécurise, car nous avons le sentiment que la réalité nous échappe et notre perception, qu'elle échappe à notre perception, pardon, et que nous sommes ainsi vulnérables, sans défense. L'histoire que nous avons lue dans le sixième chapitre du second livre des Rois est aussi une histoire de peur et de crainte. Mais ici, ce n'est pas parce que Géasi voit un danger imaginaire qu'il est rempli de frayeur. Au contraire, il voit la réalité. Il voit cette troupe, innombrable, menaçante devant lui. Géasi n'est pas un imaginatif. Il ne croit qu'à la réalité de ce qu'il voit. Mais la question est-ce que la réalité est seulement dans ce que l'on voit ? Il semble bien que si Géasi avait perçu aussi l'autre réalité, c'est-à-dire la présence de l'armée de Dieu, il n'aurait eu aucune raison d'être effrayé. Oui, chers amis, nous sommes ainsi faits, ou plutôt défaits. Nous avons la capacité d'imaginer ce qui n'est pas, ce qui n'a pas d'existence, mais nous avons beaucoup, beaucoup de difficultés, beaucoup de mal à percevoir les réalités invisibles. C'est ainsi que beaucoup aujourd'hui invoquent la raison et la science pour justifier leur athéisme. Mais ils sont prêts à croire n'importe quoi et n'importe qui, au mépris du simple bon sens et de toute logique. Je pense que ce comportement est révélateur des besoins du cœur humain. C'est ainsi que l'homme rejette Dieu parce qu'il ne le voit pas, alors que Dieu est. Par contre, il se laisse séduire par toutes sortes de croyances ou de superstitions qui ne sont que vanité. Et c'est ici que je voudrais aborder le premier volet de la prière pour la foi, et qui est illustré parfaitement par l'intercession d'Élisée pour son serviteur. Ouvre les yeux pour qu'il voie. Géasi est terrorisé. Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? Élisée apaise la frayeur de son serviteur d'abord, et en même temps, il prie, il intercède. Ouvre les yeux pour qu'il voie. Là, chers amis, je crois que nous avons un bel exemple pour nous, croyants, j'allais dire pour nous qui sommes voyants des réalités invisibles de Dieu. Nous avons là un bel exemple à l'égard du monde qui nous entoure. Et plutôt que bien souvent le juger ou le condamner pour son aveuglement, nous devrions intercéder pour lui. Intercéder pour que Dieu ouvre les yeux de la foi de tout ce qui nous entoure. Nous avons du mal à imaginer la crainte de certains. Je me souviens, lorsque j'étais au stand à Lunel, j'ai pu avoir des discussions comme ça, les gens s'approchaient, on pouvait parler. Et souvent, des gens qui, d'un abord, ont l'air bien, lorsqu'on creuse un peu, on sent sur des choses essentielles, on sent l'angoisse, la crainte qui émerge. Beaucoup de nos contemporains, malheureusement, sont esclaves de cette peur, dans un avenir qui leur échappe complètement et qu'ils imaginent souvent très sombre. Alors comme Élisée a eu compassion de Géasi, son serviteur, il faut que nous ayons aussi compassion de nos contemporains perdus, aveuglés, dans la crainte, dans la peur. Il nous faut supplier le Seigneur pour qu'il leur ouvre les yeux, autrement dit qu'il leur donne la foi, pour qu'il leur accorde cette foi par laquelle ils vont voir ces choses invisibles, par laquelle ils auront la perception des choses que l'on ne voit pas, et qu'ainsi ils soient assurés et non plus craintifs, espérants et non plus désespérés. Soyons persuadés que c'est une prière que le Seigneur agrée. Ainsi, son nom sera sanctifié, son règne viendra, sa volonté sera faite sur la terre comme au ciel. La foi, ce n'est ni de l'imagination, ni de la crédulité, ni de la superstition. La foi repose sur des faits. Cette armée de chevaux et de chars qui campent autour du prophète et de son serviteur n'est pas une illusion. Ce n'est pas une vision que provoque le prophète pour rassurer son serviteur. C'est une réalité tangible, concrète. La foi n'est pas une faible croyance, une vague croyance, pardon, qui s'appuie sur des mythes ou des fables ou des légendes. Au contraire, la foi est fermement basée, adossée, appuyée sur les actes et sur la parole de celui qui est oui et amen, de celui qui ne peut rien faire, qui ne peut pas dévier et qui ne veut pas dévier de ce qu'il a décidé de faire. C'est pour cela que la foi dépasse infiniment la logique un peu simpliste du « je ne crois que ce que je vois ». Robert du Barry disait, non sans humour, à ce propos, « Le disciple marche par la foi, mais la foi marche par la vue. » Et il avait raison. La foi marche par la vue des choses, des réalités invisibles de Dieu. Elle nous ouvre cette porte. La foi apporte aux croyants une juste vision des choses, des visibles et des invisibles. Elle lui permet aussi d'avoir un jugement équilibré sur les réalités d'ici-bas, qui sont elles aussi réelles, vraies, concrètes. Mais la foi va plus loin encore. La foi est comme un tremplin à l'espérance. Elle consolide les choses que l'on espère. Elle les transforme avec l'espérance en une ferme assurance. C'est ainsi que la foi qui ouvre nos yeux nous permet d'être déjà en espérance, chose absolument impensable. Permet d'être, écoutez bien, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans son épître aux Éphésiens. Je n'invente rien. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, en espérance, bien entendu. Et c'est ici qu'il nous faut aborder le deuxième volet de la prière pour la foi, qui lui est illustré par la prière du père de ce jeune possédé de Marc. 9. Je crois, Seigneur, mais viens au secours de mon incrédulité. Oui, chers amis, pour l'instant, aujourd'hui et maintenant, nous sommes encore ici-bas. Je voudrais donc considérer cette foi dont nous parlons, qui nous ouvre aux réalités invisibles de Dieu. Je voudrais donc aborder sous l'aspect des dures difficultés, des dures réalités de la vie. Après avoir ouvert les yeux du croyant sur les réalités invisibles, la foi, elle est comme un bouclier, nous dit Paul aussi, toujours dans les Éphésiens, avec lequel nous pouvons éteindre les traits enflammés du malin. Éteindre les traits enflammés du malin. Et vous savez, il ne manque pas les traits enflammés du malin. Les embûches, les épreuves, les souffrances de tous ordres. Lorsque l'épreuve est là, chers amis, devant cette réalité tangible, concrète, douloureuse, que vaut pour moi la parole de Dieu ? Que valent pour moi les promesses de Dieu ? Lorsque je suis au pied du mur, lorsque je suis confronté à cela, comment est-ce que je perçois encore ces réalités invisibles de Dieu ? Cette question, vous savez, m'est souvent venue à l'esprit. Ça fait très longtemps que j'ai donné ma vie au Seigneur, ou que le Seigneur m'a transformé. C'est vrai. Mais cette question m'est souvent venue à l'esprit. Et j'ai pu constater en le vivant, en l'expérimentant, la différence qu'il peut y avoir entre les déclarations de foi honnêtes, vraies, sans hypocrisie, et la réalité et la solidité de ma foi dans l'épreuve, dans le quotidien de l'épreuve parfois. Nous disons que Dieu se sert de l'épreuve pour purifier notre foi. Il y a des textes qui m'ont souvent hérissé les cheveux lorsque j'en avais. Regardez comme un sujet de joie parfaite toutes les épreuves auxquelles vous pouvez être confronté. Qui est-ce qui a écrit ça ? Oui, Dieu se sert de l'épreuve pour purifier notre foi, c'est vrai. Nous avons raison de dire cela et de penser cela. Mais en bien y réfléchissant, une autre réalité, une autre vérité m'est apparue. C'est que la foi n'est pas une matière figée. Elle est susceptible de fluctuer, car nous sommes des êtres vivants, tout simplement. Et les turbulences de la vie ont sur nous un impact qu'il serait sage de ne pas négliger. Alors même que nous pensons être ferme dans la foi, que celui qui est debout, disait l'apôtre Paul avec beaucoup de sagesse, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Les turbulences de la vie ont un impact très important sur notre vie spirituelle, notre vie pratique. Ce que je veux dire en un mot, c'est qu'aujourd'hui, notre foi peut être forte, belle, magnifique, soulever des montagnes. Et demain, elle peut être faible, troublée, à cause des dures réalités et des épreuves de la vie. Peut-être même est-ce le cas pour plusieurs d'entre nous ce matin. Ce matin, où nous sommes touchés par le deuil qui frappe une chère famille de l'Église. Le cri humble et pressant du père de ce jeune démoniaque devrait aussi être pour nous un bel exemple de prière, chers amis. Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Le Seigneur sait combien nous sommes sensibles à ce que voient nos yeux de chair. Combien nous sommes vulnérables et effrayés, nous sentant seuls face à des réalités qui nous dépassent, qui nous bouleversent, qui nous terrifient. Notre Père Céleste sait combien il nous est difficile, à nous, créatures de chair et de sang, combien il nous est difficile de fixer notre attention sur des choses invisibles, lorsque le visible nous percute, nous renverse, nous bouleverse. Mon frère, lorsque nous parlons des choses de Dieu, me dit souvent, « Oh, mais pour toi, c'est évident. Toi, tu as la foi, mais moi, je ne l'ai pas. » Voilà, je ne cherche pas plus loin. « Toi, tu as la foi, moi, je ne l'ai pas. » Alors, il dit cela comme si la foi des croyants coulait de source. La foi est un don de Dieu, mais elle ne coule pas de source. Elle n'est pas une chose naturelle. Et mon frère ne se doute pas des combats qui ont été les miens, et que j'en suis sûr sont aussi les vôtres. Ils sont encore les miens, dans des circonstances diverses, pour que ma foi ne sombre pas. Il faut que je fasse violence à ma nature charnelle, que je la fasse taire, pour que le Saint-Esprit puisse, lui, m'ouvrir les yeux de la foi, pour que je voie les réalités invisibles de Dieu, ses plans éternels de bonté, de miséricorde, de justice et d'amour. C'est là mon combat, chers amis. Et personne ne le fera à ma place. C'est là votre combat et personne ne le fera à votre place. Le Seigneur l'a voulu ainsi. Sachons bien que tant que nous sommes dans notre enveloppe charnelle, ce sera notre combat, le bon combat dont parlait l'apôtre Paul. Mais le Seigneur est à nos côtés. Il est à nos côtés chaque jour pour que la foi sorte plus forte et plus triomphante de ce combat. Il est à nos côtés pour nous encourager à suivre le chemin qu'il nous montre en nous ouvrant les yeux de la foi. Soyons persuadés, quoi que nous puissions vivre, que Dieu n'a pas oublié d'être bon avec nous. Dieu ne nous a pas oubliés. Quoique j'ai pu le penser de temps en temps, lorsque je traversais des maladies qui me perturbaient beaucoup, mais Dieu a autre chose à faire. Dieu a autre chose à faire que de tenir compte de mes petits combats, de mes petites difficultés ou de mes états d'âme. Dieu n'a pas oublié d'être bon avec nous. Alors sommes-nous troublés, sommes-nous désorientés? Demandons-lui de nous aider à garder les yeux fixés sur Jésus, qui est autre chose que cette petite loupiote que je voyais au fond de mon allée noire de platane. Il est, lui, en même temps l'auteur, la source, l'objet de notre foi. Il est celui qui l'a conduit à son complet accomplissement, à sa maturité et à son épanouissement parfait. J'en arrive à ma conclusion. Chers amis, nous avons un avantage inestimable par rapport aux héros de la foi d'Hébreux 11. Car nous savons, nous, jusqu'où est allé le Seigneur par amour pour nous. Nous savons qu'il est allé jusqu'à la croix. Nous avons fêté Noël ces derniers jours. Nous avons fêté ce Dieu glorieux venant comme un petit enfant sur notre monde pour marcher sur nos chemins et pour mourir sur la croix de Golgotha. Nous savons, par amour, qu'il est allé jusque-là. Ce chemin terrible, il a dû le parcourir, lui. Personne n'est venu prendre sa place. Cette place qui n'était pas la sienne, mais qui était la mienne, qui était la nôtre. Et oui, et c'est sa parole qui nous apprend cela. C'est sa parole qui nous révèle tout l'amour que Dieu a pour nous. Je me souviens le jour de ma conversion, la personne avec qui je parlais et qui était un enfant de Dieu, qui était un témoin, lorsque je lui dis, mais bon, la Bible, c'est bien gentil, il y a aussi le Coran, il y a aussi les écrits de tous les autres, qu'est-ce qui fait que la Bible est vraiment la révélation de Dieu? Alors, il m'a simplement dit, bien, lis la Bible et tu verras, l'amour transpire dans chaque page. Sa parole nous apprend que Dieu est amour. Et je veux de nouveau le souligner très fort. La foi trouve son appui et son fondement sur les actes de Dieu et sur sa parole. Elle est en cela le plus sûr chemin pour éviter l'esclavage de la crainte, de la peur, car elle nous ouvre les yeux sur ce Dieu d'amour et ce Dieu de bonté. Ta parole, nous connaissons tous ce verset, ce passage, psaume 119, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alors courage, demandons humblement au Seigneur de nous aider à marcher à l'exemple d'Abraham, de Moïse, de Jean-Baptiste et de tous ces héros de la foi qui ont douté, mais qui ont persévéré dans la fidélité et dans l'obéissance. Disons à Dieu comme le père de ce jeune démoniaque, « Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » Gardons les yeux fixés sur Jésus, même si le chemin est rocailleux et si les cailloux blessent un peu. Il y a un chant, petit chant qu'on chantait avant, je vais monter sur la montagne, etc., etc. Mais les cailloux, ils blessent, et pas qu'un peu. Et puis, sur la montagne, voilà, on n'y est pas tous les jours. Jésus-Christ intercède lui-même pour que notre foi ne défaille pas, mais au contraire, qu'elle grandisse. Ce beau cantique que nous avons chanté, à la fin, je ne savais pas que nous allions le chanter. Pierre me l'a appris, mais je vous inviterai tout à l'heure à le rechanter. Ce beau cantique compare le Seigneur à une ancre, à une voile. Et nous pouvons ajouter, pour garder l'image de la navigation, qu'il est aussi notre phare. Il nous montre le but à atteindre. Il est notre lumière au bout de cette allée noire. Poursuivons donc notre marche, marche nocturne, fluctuante bien souvent, mais que par la foi, nous puissions voir à nos côtés celui qui est la lumière de la vie, celui qui est la lumière de notre vie. Et il nous suit, et il nous précède, et il nous accompagne dans tous nos chemins. Il l'a promis, il est avec nous. Lui qui est la lumière du monde. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile, et j'ajouterai, sois mon phare. Amen. Je vous invite à chanter ce chant maintenant dans le recueillement.